Your servant comes in bells, please don't.
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
Qu'est-ce que tu dis?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
C'est eux qui vous trouvent, hein?
Toute notre vie est un problème.
Et à qui la faute, tu crois?
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairois. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère.
Il faut travailler à réduire globalement la violence qui reste invisible, en tout cas à partir des deux centraux dominants, celle qui s'exerce jour le jour, pêle-mêle, dans les familles, les usines, les ateliers, les commissariats, les prisons, ou même les hôpitaux et les écoles. Et qui reproduit la violence inerte des structures économiques et sociales, les mécanismes impitoyables qui contribuent à l'économie.
Je viens de remonter le micro. Alors en voilà une émission qui commence sur une qualité technique, une professionnelle, côté professionnel très abouti. Donc, vous êtes toujours sur Radio Canu, donc sur le 102.2 de la bande FM ou sur Internet. Attention là les papiers,
ça s'entend.
Oui, je vais baisser définitivement tout au micro. Alors donc émission Angle Mort, émission de critique sociale, d'expérimentation sociale et plein de choses de cet ordre-là. Et donc il est 21h passé d'une petite dizaine de minutes et on commence notre émission. Aujourd'hui il sera question de guerre aux pauvres. En fait, on va revenir sur rapidement et sans être vraiment des spécialistes, mais on voulait revenir un peu sur monsieur Robert Castel qui est mort, qui est décédé cette semaine, le 12 mars plus précisément.
Un sociologue,
philosophe de formation, un décès qui a été éclipsé par des informations aussi importantes que l'élection du nouveau pape, ou plus important encore, les fortes chutes de neige à Paris qui ont beaucoup embêté ces journalistes parisiens. Et qui méritait d'être vraiment mise en avant. Et donc voilà, on voulait revenir un petit peu sur son travail. dans cette émission. Et bon, bah pour commencer, hein, pour se mettre bien en place, pour voilà, reprendre nos esprits, parce que là c'est un début un peu calamiteux, on va lancer une chanson. Et oui, on va lancer une chanson. Et on verra bien ce que c'est.
L'Africain est mon frère, le musulman, le juif, je respecte leurs prières. Individu.
Bonsoir, toujours à l'écoute de Radio Canu, c'est sur le 102.2, c'est l'émission Angle Mort qui commence un peu difficilement, mais on commence à se caler. Vous venez d'écouter Psycho Squat, un vieux groupe d'anarcho-punk français qui s'est reformé en 2010, je crois. Voilà, on laisse la parole à Eric, qui va nous parler de... C'est pas drôle, il est mort, Eric.
Non, mais c'est...
Bon, bref, allez, c'est nul. Donc, qui va parler de Robert Castel, comme annoncé. Robert Castel, sociologue qui a travaillé notamment sur les questions de pauvreté, de guerre aux pauvres, etc., etc.
Voilà, donc c'est Robert Castel, donc effectivement un sociologue qui s'est fait connaître pour ses travaux publiés dans les années 90-2000, je crois, notamment. Donc ses travaux sur la question sociale qui l'appréhendait, notamment il a réalisé une histoire sur le long terme, une socio-histoire du salariat, et qui l'a amené à pointer du doigt les effets dramatiques de la destruction des protections sociales. La protection sociale attachée au travail. Et donc qui montrait les effets délétères de la précarisation du travail et qui notamment a construit dans ce cas-là le concept de désaffiliation. Et c'est pas de ça que je vais parler, donc, mais pour continuer cette présentation un peu de Robert Castel, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a eu à cette période, donc dans les années 90-2000, des positions ouvertement réformistes. Mais on peut dire réformiste de gauche et qui sous certains aspects, dans un contexte de conversion toujours plus avancé de la gauche institutionnelle au libéralisme économique, a tendance à le classer quand même dans une gauche de la gauche, enfin une gauche assez critique. Mais c'est sûr qu'on n'avait pas affaire avec lui dans les dernières années, en tout cas un révolutionnaire politique, il le disait explicitement qu'il n'y croyait plus. Et qui l'estimait que l'enjeu était pour l'heure de plutôt en s'inspirant d'un auteur qui s'appelle Karl Polanyi, donc de domestiquer les forces du marché et surtout de réinventer des formes de protection sociale des travailleurs pour répondre à des phénomènes comme le développement de formes précaires du travail avec les CDD, l'intérim, etc., qui favorisent donc ces processus de désaffiliation. Alors avant d'être ce penseur des transformations actuelles du travail et un critique aussi des discriminations ethniques à l'embauche ou ailleurs, Castel est quelqu'un qui a collaboré dans les années 60-70 avec Bourdieu et avec Foucault. Donc ses premiers travaux ont porté sur la psychiatrie et la psychanalyse dans une approche critique d'inspiration foucauldienne, qui dénonçait la psychiatrie comme une forme de contrôle social. Et donc sur ces questions, il s'est d'abord chargé de la publication en 1968 du classique Asile, le livre Asile du sociologue américain Irving Goffman, donc publié aux éditions de Minuit dans la collection Le Sens Commun, dirigée par Bourdieu. Et il a lui-même publié peu après, en 1973, un livre qui s'appelle Le Psychanalysme, aux éditions Maspero, qui est un éditeur militant de l'époque, qui a donné aujourd'hui, je crois, La Découverte. Et dans la foulée, il a publié Au Sens Commun, donc dans la collection Au Sens Commun, un livre intitulé L'Ordre Psychiatrique. Alors je connais pas ses travaux, mais tout à l'heure je vais faire une citation qui peut donner une idée de quoi ça peut traiter. Mais je voulais quand même les citer parce que je pense qu'on trouvera dans les auditeurs de Radio Canu des personnes intéressées par ces questions de psychiatrie et de contrôle social. Voilà, et si on peut donner l'envie d'aller lire ceci, voilà. Et bon, moi ce que je vais parler, ce que je vais présenter dans les grandes lignes, c'est un article qu'il a publié donc aussi à fin des années 70 dans la revue Actes de la recherche en sciences sociales, donc en 1978 pour être plus précis, et qui s'appelle « La guerre à la pauvreté aux États-Unis, le statut de la misère dans une société d'abondance ». Donc avant de commencer la présentation de ce petit texte dans les grandes lignes, on se lance une petite chanson alors est-ce que cette fois... Oui, alors les incontournables Dead Kennedys avec la chanson « Kill the Poor », parce que ça va être un petit peu de ça dont il est question, à savoir comment les dispositifs tournés vers les questions de pauvreté en général sont tournés vers une véritable guerre aux pauvres plus que de guerre à la pauvreté. Oh! Alors, toujours à l'écoute de Radio Canu, émission Angle Mort, on vient de s'écouter donc à l'instant, je l'ai annoncé, Kill the Poor des Dead Kennedys, et on reprend sur une présentation un peu rapide, un peu dans les grandes lignes, mais avec la volonté malgré tout que ses travaux, et notamment ses travaux les plus anciens, ne tombent pas dans l'oubli, parce qu'il a fait des choses quand même intéressantes, ce monsieur. Donc Robert Castel, je le disais, et donc là je vais présenter dans les grandes lignes un texte qui s'appelle La guerre à la pauvreté aux États-Unis. Le statut de la misère dans une société d'abondance, qui est paru en 1978. Et donc c'est un texte qui s'intéresse à la manière dont, dans une société dite d'abondance, comme les États-Unis, on a conçu et on a traité la misère, la pauvreté. Et en fait, ce qu'il dit dès l'introduction, c'est que la misère, bien loin d'avoir disparu à cette époque, donc dans les années 70 aux États-Unis, elle est en fait reléguée à un statut d'invisibilité, elle est déniée. Elle n'y trouve pas de place, on ne peut pas penser, on ne peut pas concevoir l'idée même qu'il y ait une pauvreté aux États-Unis. Et elle se heurte en fait là-bas un discours justificateur de la richesse. Et donc la pauvreté, autrement dit, renvoyait à une survivance, à une anomalie, à quelque chose d'exotique. Et Castel montre que tous les dispositifs d'assistance aux pauvres qui se sont élaborés dans l'histoire américaine face à ces phénomènes de misère sociale, qui sont quand même des phénomènes qui réémergent régulièrement au moment d'émeutes, donc c'est des phénomènes qui sont déniés mais qui réémergent de temps en temps à la conscience des contemporains. Bon, mais tous les dispositifs qui sont mis en place pour juguler ces problèmes se caractérise par une continuité dans la dénégation de la dimension sociale de la pauvreté. Là, je cite Robert Castel, « La pauvreté n'existe pas, il n'y a que des pauvres. Autrement dit, des gens responsables de leur pauvreté. La misère n'est pas une conséquence structurelle de l'organisation sociale, elle est la masse critique atteinte par une sommation d'individus dont chacun porte en lui la raison de sa déchéance. » Donc là,
C'est pas ce qu'il pense.
Il décrit la manière dont est pensée la pauvreté aux États-Unis. Et donc il va décrire dans cet article les dispositifs successifs qui ont été mis en place en direction des pauvres. Donc qui passent, donc là je vais être très rapide en fait, je vais couper un peu par rapport à, mais en gros ça, il montre qu'il y a une continuité, il montre qu'on passe de, dans un premier temps, d'une charité privée, donc qui se caractérise par un traitement purement local et discrétionnaire, quasi arbitraire de l'aide aux pauvres, selon voilà, qui sait qu'on a bien envie d'aider, voilà, selon l'argent que les gens vont mettre. Ensuite émerge l'enfermement des pauvres dans ce qui s'appelle à l'époque les almshouses, c'est-à-dire des maisons de charité, et qui se caractérisent en fait par les principes, c'est la ségrégation des pauvres. Donc on va les couper, on va les enfermer dans des maisons particulières. Et l'autre caractéristique, c'est l'enjeu, c'est de reprogrammer les personnes qui sont prises en charge, avec donc un fort côté disciplinaire. Voilà. Donc on passe de ça, de l'enfermement des pauvres en vue de leur redressement moral, à l'élaboration des dispositifs plus étatiques, ça va être des mises sous tutelle en fait, bureaucratiques, qui vont se caractériser toujours par une suspicion du pauvre, d'être un faux pauvre qui va chercher à grappiller quelques sous. Et donc avec un fort contrôle social et une forte culpabilisation des pauvres. Avec aussi donc au début du XXe siècle notamment un développement très fort du traitement psychologique de la pauvreté, qui va sans cesse rattacher la misère à une faiblesse psychologique et estimer que la pauvreté ne peut être corrigée qu'en apportant une aide psychologique aux pauvres. Donc là, à la limite, le dispositif ne s'occupe même pas d'apporter de l'argent. La seule aide apportée, c'est une aide psychologique aux pauvres pour parvenir à affronter sa situation. Et donc, je voulais lire un petit passage, un petit extrait qui va être peut-être un petit peu long. J'annonce la couleur.
On est prêt.
Donc, on doit réserver l'étude des raisons pour lesquelles, à partir de 1910, un nouveau code d'interprétation des conduites déviantes et marginales s'impose dans la société américaine. Il se produit à la confluence du succès de la psychanalyse et du mouvement de l'hygiène mentale et n'est pas cantonné à l'exploration du pathologique. Le domaine de l'enfance, celui de la justice, mais aussi le travail industriel comme le travail social sont submergés par ce raz-de-marée. il serait encore plus difficile de prétendre faire état des changements globaux qui affectent la société américaine au moment de la guerre. Atteinte aux libertés civiles, renforcement de la domination de Big Business, recrudescence de la corruption politique, aggravation du racisme, de la bigoterie et du conformisme moral, etc. Mais dans le domaine du travail social, les résultats sont clairs. La profession était à la recherche d'un fondement scientifique, entre guillemets, pour ses techniques. Elle oscillait dans sa conception entre une interprétation psychomoralisante et un souci nouveau de faire leur part aux conditions concrètes de vie des assistés. Sans doute la référence sociale et politique qui s'esquissait est-elle apparue trop générale et trop abstraite pour fournir des techniques opératoires à une pratique en voie de stricte spécialisation. Sans aucun doute aussi, le contexte politique et idéologique écrasant a-t-il réprimé la possibilité d'une attaque des problèmes de la pauvreté qui commençait à contester la suprématie du discours justificateur de la richesse. Avec la nouvelle psychologie, rien à craindre. Les pauvres déchus sont devenus des personnalités mal ajustées ou émotionnellement perturbées. Ils sont toujours les premiers responsables de leurs conditions. Ils relèvent d'un même type de traitement individualisant. Ils restent sous la tutelle de spécialistes qui les évaluent et décident pour eux de leur destin. Mais toutes ces pratiques bénéficient désormais et pour longtemps des prestiges de la scientificité. Le casework social était affamé de psychologie humaine opératoire et n'avait pour se nourrir que des miettes de psychologie académique. Bon, je passe. Voilà. Voici donc le travail social débarrassé de la tentation d'imputer aux conditions sociales et politiques la responsabilité de la jeunesse de la misère. En 1930, alors que la crise économique avait déjà éclaté, la présidente de l'Association des travailleurs sociaux déclarait officiellement « La véritable source de l'action réside dans la nature interne de l'homme, d'où l'inutilité de tous les programmes officiels, en particulier ceux qui reposent sur l'initiative de l'État. » N'en déplaise aux admirateurs de... Robert Castel reprend la parole. N'en déplaise aux admirateurs de la psychologie, on mettra cette déclaration en rapport avec une autre, tenue la même année, mais par le président de la National Association of Manufacturers, pour lequel tenter d'abolir le chômage et la pauvreté n'est pas une fonction légitime qui convienne au gouvernement. Parce que la pauvreté provient du chômage volontaire, de l'imprévoyance, de divers péchés, maladies et autres malheurs. Coïncidence, harmonie préétablie ou complémentarité fonctionnelle entre le traitement psychologique des problèmes sociaux et la politique sociale des possédants. La suite de l'histoire va trancher l'ambiguïté. Il existe en fait un rapport nécessaire entre l'occultation de la problématique politique de la pauvreté et la prolifération des techniques psychologisantes auxquelles, à partir de la Première Guerre mondiale, l'inflation psychanalytique a servi de support.
Chasse au pot va commencer.
Donc toujours à l'écoute de l'émission Angle Mort sur Radio Canu, on vient de s'écouter à l'instant, c'était les Clash avec Rudy Canfell. Et puis avant c'était Une fois n'est pas coutume, parce que c'est un groupe que j'apprécie pas particulièrement, mais la chanson était vraiment dans le thème là. C'était donc les Sales Majestés avec la chanson Salaud de pauvre. Donc j'en finis avec cette présentation de cet article de Robert Castel, hein, qui donc montre comment les différentes manières de traiter la misère aux États-Unis restent toujours un peu sur le même plan. Et donc il apporte en fait dans le même temps quelques éléments pour comprendre la spécificité des États-Unis qui explique cette incapacité à penser les causes sociales de la misère. Et donc il montre déjà le fait que les États-Unis sont nés en se pensant, enfin les gouvernants hein, sont nés en se pensant par opposition à la vieille Europe entre guillemets, de sorte que c'était impossible pour eux de concevoir la pauvreté sur leur territoire, parce qu'ils disaient nous on a la liberté politique, donc ce qui se passe en Europe, donc le paupérisme, tout ça qui frappe l'Europe n'est pas possible chez nous, c'est inconcevable. Donc il y a ça déjà qui a amené à rendre difficilement pensable les causes sociales de la misère. Et ensuite il dégage aussi des facteurs qui sont liés plutôt à la structure économique, donc comme la longue prépondérance d'une paysannerie indépendante aux États-Unis et le fractionnement du prolétariat avec des vagues successives d'immigration, et donc qui ont favorisé en fait la diffusion et l'implantation du mythe du self-made man, donc cette croyance que tout le monde peut s'en sortir, que tout est une question de volonté. Une croyance qui n'est pas vraiment portée, enfin ne favorise pas vraiment la prise de conscience des conditions sociales de la pauvreté, et du coup amène ici à faire du pauvre sans cesse un déficient, en le traitant individuellement. Et ce texte, il me semble voilà, surtout très fort dans sa description des logiques des dispositifs de contrôle des pauvres. C'est-à-dire qu'il va montrer la suspicion, la mise sous tutelle du pauvre, le contrôle de sa vie, qui implique du coup un renforcement de la dépendance des personnes visées par ces dispositifs, un assujettissement de celles-ci aux pouvoirs locaux ou nationaux, parce qu'il va devoir se conformer aux critères de l'institution, accepter son statut inférieur, se faire même hypocrite d'une certaine manière. Et Castel parle aussi de manipulation des besoins, c'est-à-dire qu'on va refuser aux pauvres le droit de déterminer quels sont ses besoins. Il n'est pas compétent en la matière, et ce sont les institutions qui vont lui définir ses besoins. Il évoque aussi des effets d'atomisation liés à ces dispositifs, et du coup qui rendent peu probable une prise de conscience collective, et donc autant d'éléments qui en définitive concourent à faire accepter aux pauvres la responsabilité de leur misère et à les assigner à une position infantilisée. Donc ce texte il est intéressant parce que c'est des choses qu'aujourd'hui on connaît plutôt bien et qui ne sont plus vraiment spécifiques aux États-Unis, mais qui du coup nous permet de rentrer un peu dans la préhistoire des dispositifs actuels en direction par exemple des chômeurs. Et là-dessus, je renvoie notamment à un article de Serge Ebershold, qui est publié aussi dans la même revue, donc Acte de la recherche en sciences sociales, dont je vais essayer très vite de retrouver les références. Voilà, donc c'est un article qui s'appelle L'insertion ou la délégitimation du chômeur, publié dans la revue Acte de la recherche en sciences sociales numéro 154, et qui montre comment on a une reconfiguration idéologique de la question de l'emploi, avec des revues telles que Rebondir ou des voilà, et puis les politiques d'insertion récentes qui sont inspirées et qui ont notamment mis en avant le concept d'employabilité et qui vise à faire du sans-emploi un entrepreneur de son devenir, et du coup qui a pour conséquence que celui qui échoue n'a plus que, enfin c'est sa faute en gros, on va nier à nouveau maintenant les conditions sociales de situations comme le chômage, les conditions économiques aussi. En quelque sorte, le chômeur qui se retrouve au chômage, c'est une chance parce qu'il va pouvoir rebondir, il va pouvoir montrer qu'il en a. Et voilà. Donc voilà, ce que décrit Castel dans ce texte, c'est un peu la préhistoire de tout ce qui nous tombe dessus, là, d'individualisation des situations, de mise sous tutelle des chômeurs, de contrôle permanent, qui nous bouffe la vie. Bon, je relance une petite musique, et puis après Natacha va présenter un article du CQFD, je crois, qui est aussi un peu dans le thème. Radio Canu Angle Mort.
Angle mort sur le 102.2 de Radio Canu. On vient de s'écouter Future of the Left avec personne ne sait le nom du morceau, c'est pas très très important. Maintenant Natacha.
Oui.
C'est à toi ma grande. Mon petit.
Manu, arrête.
Un article de CQFD, on t'écoute.
Oui, alors le mon petit et ma grande, je m'en souviendrai Manu, je saurais te casser le nez à l'occasion. Voilà, donc un article paru dans le numéro 106 de CQFD, le numéro de décembre 2012, donc il y a quelques mois. CQFD, si vous ne connaissez pas, c'est un journal, un mensuel critique d'expérimentation sociale extrêmement intéressant et qui a de nombreux problèmes de finances. Donc si vous ne savez pas quoi faire de vos sous, il ne faut pas hésiter à vous abonner, à acheter le journal en kiosque, etc. etc. Un journal vraiment intéressant qui mérite bien de pouvoir continuer à vivre. Donc l'article dont il est question fait un peu résonance, enfin même pas mal, avec le sujet évoqué par Eric aujourd'hui. L'article s'appelle « Pas de droit, pas de chocolat ». Un article qui est intéressant, qui vient bousculer les préjugés sur, entre guillemets, ces assistés qui se gavent d'aide sociale. L'article s'intéresse en fait à la publication d'un ouvrage intitulé « L'envers de la fraude sociale » qui est paru aux éditions La Découverte en novembre 2012. Et que l'on doit cet ouvrage à l'Observatoire des non-recours aux droits et services, fondé en 2003, l'Observatoire, voilà, fondé par un politologue et une sociologue. Ce que montre l'article et le bouquin, qui s'intéresse donc au fait qu'un certain nombre de personnes qui pourraient avoir recours à des aides sociales ne font pas l'usage de leurs droits. Ce que montre l'article donc, c'est que une personne sur deux, par exemple, en droit de toucher le RSA, ne le perçoit pas. Que 1,4 million de foyers éligibles à la CMU n'en bénéficient pas. Et il en va de même pour le droit au logement opposable, pour les allocations chômage, pour les tarifs sociaux, etc. etc. Donc les explications développées par les auteurs du bouquin « L'envers de la fraude sociale », de ces non-recours et donc non-dépenses aussi, hein, qui sont du coup des économies assez faramineuses, hein, que fait l'État sur le dos, entre guillemets, des pauvres. Les explications sont multiples. Alors elles tiennent d'abord aux conditions de vie difficiles des personnes concernées. Plus les conditions de vie sont difficiles, plus il devient compliqué de demander ses droits. Voilà, c'est quelque chose qui est un droit devient difficile à accéder, ça paraît assez évident. Par ailleurs, ce que soulignent les auteurs de l'ouvrage, c'est que des dispositifs sont largement méconnus du grand public et aussi des acteurs sociaux. C'est le cas par exemple des tarifs sociaux des transports en public. Que autre explication que les procédures sont souvent trop complexes, oui. Alors un exemple qui est donné, je vais vous citer un extrait d'un entretien avec un des sociologues qui collabore à l'ouvrage, qui s'appelle Pierre Mazet, qui dit par exemple que concernant les tarifs de première nécessité, qu'on appelle TPN, EDF passait jusqu'à peu par une boîte privée, Xeros Global Service, qui envoyait un formulaire aux assurés éligibles. Le formulaire comptait jusqu'à 57 cases à remplir. Voilà, comment des procédures hyper complexes vont faire que les gens vont se décourager. Et puis, ce que soulignent les auteurs aussi, c'est qu'une raison beaucoup plus insidieuse et finalement peut-être beaucoup plus importante, c'est le coût psychologique du recours à ces aides. Résultat, ce coût psychologique, conséquence des discours qui ont pour effet de culpabiliser les ayants droit. Pierre Mazet explique par exemple que tout est fait pour que les personnes éligibles à des droits se sentent coupables à partir du moment où on oblige les gens à demander. Voilà, juste le fait de demander, on produit un phénomène de honte, de perte d'estime de soi, et on se considère comme pauvre. Donc on voit bien comment la démarche qui consiste à demander ce qui a un droit qui pourrait être automatiquement acquis a d'infantilisant, de culpabilisant, etc. Les auteurs proposent des solutions qui sont des solutions qui posent aussi des questions, qui pourraient être l'automatisation des droits, en soulignant que souvent ceux qui sont opposés parlent d'un risque Big Brother, c'est-à-dire que pour que les droits soient automatiques, il faudrait qu'il y ait des croisements de données entre par exemple la CAF ou le chômage ou telle autre aide. Mais ce que soulignent les auteurs de l'article, puis finalement, plus fondamentalement les auteurs de l'ouvrage L'envers de la fraude sociale, c'est que ces croisements de bases de données existent déjà pour les contrôles. Donc tant qu'à faire, autant faire qu'elles existent pour l'acquisition des droits. Voilà, donc... oui, Eric, enfin, je sais pas, je t'en prie.
Oui, ce que ça me fait rappeler, c'est que l'article du coup que j'ai présenté très rapidement, ce qu'on voit très bien, c'est que en fait, on a toujours une critique de la pensée libérale de tout ce qui peut être dispositif d'assistance. L'assistance va renforcer l'assisté dans sa position. Donc voilà, la critique de l'assistanat, dégradation de son statut, etc. Donc il ne faut pas de politique d'assistance. Sauf que du coup, ce qu'on voit, c'est que toutes les dispositifs finalement d'assistance qui ont été mis en place, parce qu'ils sont bien obligés aussi à un moment quand il y a la merde qui remonte, de dire alors on va essayer quand même de faire quelque chose. En fait, tous ceux qui sont faits dans un esprit d'inspiration libérale renforce justement ces mises sous tutelle et qui en fait produisent justement ce qu'ils dénoncent, renforce tout ce qu'ils dénoncent, à savoir une mise sous tutelle, une dégradation, une mise en position où t'es obligé finalement d'être hypocrite parce que tu sais très bien que en fait t'es découragé, que tu vas pas, voilà, mais que tu vas faire comme si t'étais super actif sur le marché de l'emploi, voilà. Donc bon, ça me faisait penser à
tout
ça.
Tout à fait, ouais. Voilà, donc c'était une petite présentation donc d'un article de CQFD, numéro de décembre 2012. Si vous voulez le retrouver, on va passer un peu de musique, je pense.
On va pas tarder à finir l'émission, on va passer deux titres à la suite qu'on vous présentera juste après pour dire au revoir aussi, tout ça.
Tu n'as
Allez, toujours à l'écoute d'Angle Mort sur Radio Canu. On va se quitter pour laisser la place à la causerie. On se lance à une petite dernière chanson, voire deux en fonction du temps, le temps qui s'installe, tout ça. On se lance la chanson de Joy Division, Walked in Line. Walked in Line.
Yeah.
Histoire de mettre la bonne ambiance.
toujours à l'écoute de Angle Mort. On finit dans 2 minutes. On laisse la place à l'excellente émission La Causerie. Voilà. À 22h, vous allez écouter avant de vous dire au revoir. Non, on vous dit au revoir maintenant. Et puis, on va passer une chanson, enfin, un morceau du groupe Dubamix, un groupe de dub radical qui se définit comme libertaire. Voilà. Qui existe depuis 10 ans et qui travaille à incorporer des discours de femmes et d'hommes politiques publics et de les confronter avec la réalité sociale. Voilà, c'est parti. Est-ce qu'on dit autre chose ?
Peut-être annoncer que, selon toute vraisemblance, mais c'est pas totalement certain, mais il n'y aura pas d'angle mort la semaine prochaine, dimanche prochain. Donc, a priori, on vous donne rendez-vous pour dans 2 semaines pour encore plein de choses intéressantes de la sociologie critique bourdieusienne. En veux-tu, en voilà. On n'est jamais lassé. Allez, on vous laisse avec Dubamix. À la semaine, pas la semaine prochaine, à dans 2 semaines normalement.
Salut.
Une peine secrète, une tonne de choses pas faites. La mienne est de voir ce monde bancal et toutes ces choses mal faites. Ma haine me fait pleurer, mais j'en dis moins que les coups qu'elle me porte. Car on me dit de fermer ma gueule et que ma révolte est morte. Alors je me tais, souris, survie, mais n'oublie pas. Ces paysages sont la blinde de merde et plein de lois. J'ai le rap sombre à l'image de cet automne qui plane. Les jours fades se suivent, c'est monotone et ça me fane. We'll be right back.